avis. Je réimprime sur leur dernière édition ces deux petits ouvrages tels qu'ils parurent à l'époque de la première censure et de l'abolition de cette censure. On mesurera le chemin que nous avons parcouru. On verra nos peines, notre joie et des espérances maintenant trompées. Je n'ai pas voulu retrancher le récit et les pièces, témoignages des persécutions éprouvées alors par les journaux. Il faut que ces faits demeurent, en preuve de l'esprit oppresseur et toujours le même, de la censure. On croira lire ce qui se passe sous nos yeux dans ce moment même. Violente ou hypocrite, la censure ne change point. De la censure que l'on vient d'établir en vertu de l'article 4 de la loi du 17 mars 1822. Avertissement de la première édition. La censure n'a pas permis qu'on annonçât cette brochure dans les journaux. Cependant, le titre de ce petit écrit n'a rien de séditieux. De la censure que l'on vient d'établir. Y a-t-il là quelque chose contre le roi et la loi? Ce titre même fait-il connaître si l'auteur de l'ouvrage est pour ou contre la censure? Quel instinct dans les censeurs! Quelle merveilleuse sagacité! Mais je ne dis pas tout. Mon nom est imprimé en tête de la brochure. Pourrait-on croire que nous en soyons là, sous le ministère de messieurs Corbière et de Villèle? Avertissement de la seconde édition. Le public a enlevé la première édition de cette brochure plus rapidement encore que je ne l'ai écrite, bien que la censure n'ait pas permis de l'annoncer, et qu'à la poste, on ait refusé d'expédier les exemplaires destinés au département. Cela ne prouve rien pour le mérite de l'ouvrage, mais cela montre à quel point l'opinion s'est prononcée en faveur des tribunaux, avec quelle ardeur elle réclame les libertés publiques et repousse le système ministériel. J'ai à peine eu le temps de faire disparaître quelques incorrections de style, échappées à ce que je pourrais appeler une improvisation écrite. J'ai ajouté peu de choses au texte, mais je veux consigner ici un nouveau fait de la censure actuelle. La censure, comme on l'a vu, avait mutilé, dans le journal des débats, un article relatif à Monseigneur le duc d'Orléans. Elle a été plus rigoureuse envers le constitutionnel, qui s'est avisé de parler de Monseigneur le duc d'Angoulême. La chose m'avait paru si improbable que j'ai voulu voir, pour le croire, l'article supprimé, supposant qu'il y avait au moins à cette témérité censoriale une ombre, une apparence de prétexte. On va en juger. Voici l'article. Guillemets. Nous publions, avec un vrai plaisir, l'avis suivant qui nous est adressé du cabinet de Son Altesse Royale, le duc d'Angoulême. Messieurs les membres de la Société Royale des Prisons sont invités à se trouver, jeudi 19 de ce mois, à 1h, à la séance de la Société, présidée par Son Altesse Royale, et qui se réunira chez Monseigneur. Puissent tous les abus qui sont si malheureusement enracinés dans le régime des prisons et qui excitent depuis si longtemps la sollicitude de tous les vrais amis de l'humanité et de la religion, être connus du prince. Puisse l'administration, docile à sa voix, réformer des scandales affligeants pour toutes les âmes sensibles. Puisse-t-elle purifier le séjour infect, où tant de victimes diverses sont si malheureusement confondues. Ce que nous désirons surtout, c'est que l'intéressant ouvrage que vient de publier M. Appert soit mis sous les yeux du prince et qu'on ne lui cache aucun de ceux qui sont de nature à l'éclairer sur un objet si digne de sa bienfaisance et de son humanité. Fin des guillemets. Il ne s'agit pas des doctrines du constitutionnel qui, sous tant de rapports, ne sont pas les miennes. Cette feuille d'ailleurs m'épargne trop peu pour qu'on puisse me soupçonner d'avoir un grand penchant pour elle. Mais il s'agit de la raison, de la bonne foi, de l'équité, des principes. y a-t-il rien dans l'article précité qui ait pu mériter la colère des rogneurs de phrases? Il ne sera donc plus permis de parler d'humanité, ni même de religion, car le mot se trouve dans l'article. Ainsi, le nom d'un prince restaurateur de notre armée, ce nom que l'Europe respecte, que la France a inscrit dans les fastes de sa gloire, est rayé par quelques censeurs obscurs dans un bureau de police. Il est vrai que ce prince, tout chrétien qu'il est soupçonné d'aimer la charte. Il est vrai qu'en Espagne, tous les partis ont trouvé un abri derrière son épée, qu'il a prêché la concorde au milieu des divisions, qu'il a réprimé les écarts de la liberté comme les fantaisies de l'arbitraire, qu'il s'est opposé aux réactions et aux vengeances, qu'il n'a pas souffert que des proscriptions déshonorassent ses armes, et que les bûchers de l'Inquisition devinssent les autels élevés à ses victoires. Avertissement de la troisième édition. Je voulais laisser passer cette troisième édition sans un nouvel avertissement. J'avais vu, il est vrai, dans un journal, une espèce d'amende honorable, une explication par laquelle un écrivain officieux prétendait prouver que ses maîtres, en établissant la censure, n'avaient pas voulu attaquer les tribunaux. Ce misérable désaveu d'un fait patent ne peut inspirer que de la pitié. En note. On m'écrit de toutes parts pour me signaler de nouvelles vexations de la censure. Le Courrier français, par exemple, avait annoncé que M. Michaud, qui vient de perdre sa place à l'imprimerie royale, était frère de M. Michaud, rédacteur de la quotidienne. La censure a rayé cette annonce factieuse, disant qu'elle avait permis au journal des débats de dire que M. Michaud le renvoyait, était frère de M. Michaud de l'Académie française. On sent tout ce qu'il y a d'ingénieux et de profond dans cette distinction faite par la censure entre M. Michaud de l'Académie et M. Michaud de la quotidienne. Dans un petit journal littéraire, on a retranché un passage du serment de Bossuet sur l'honneur. On ignore quel est le docteur de Sorbonne à la police qui a mis à l'index le dernier père de l'Église. Je suis honteux de descendre dans le détail de ces platitudes, mais il est nécessaire de livrer la censure à l'opinion, afin qu'elle soit méprisée comme elle mérite de l'être. Quand voudra-t-on se persuader enfin que nous vivons au XIXe siècle ? Fin de la note. Je n'aurais donc pas songé à grossir ce petit ouvrage de quelques lignes si un autre article, d'une tout autre gravité, n'avait attiré mon attention. Lorsque j'ai dit que les ministres seraient obligés, pour prolonger leur existence politique, de pousser leur système jusqu'aux dernières conséquences, lorsque j'ai demandé quel serait le parti qu'ils prendraient en cas d'opposition de la part des chambres législatives, je n'ai rien exagéré, et l'on ne m'a pas fait attendre longtemps la réponse à mes questions. Un article inséré dans le Drapeau blanc a été répété par l'Étoile. La censure, en le laissant passer dans d'autres journaux, a achevé de lui donner un caractère semi-officiel. Il mérite la peine d'être transcrit et commenté. Le voici. Guillemets. Les conseils généraux de département s'assemblent, appelés par la loi fondamentale à donner leur avis sur tout ce qui intéresse la prospérité du commerce et de l'agriculture, vu à la vérité d'une manière locale. Il ne leur est pas interdit pour cela de traiter les plus hautes considérations législatives lorsqu'elles se rattachent aux besoins particuliers des subdivisions territoriales. Ne sont-ce pas les cahiers des conseils généraux qui, les premiers, ont indiqué la nécessité d'une loi sur la voirie vicinale et qui ont posé le principe de la double prestation. Les modifications apportées aux tarifs de l'enregistrement n'avaient-elles pas été invoquées par les mêmes organes? La plupart des grandes améliorations n'ont-elles pas pris leur source dans ces assemblées qui, par la manière dont elles ont été composées depuis la Restauration, offre toutes les garanties désirables de dévouement, de sagesse, de lumière, d'indépendance et de bonne foi. Aux yeux du gouvernement, comme pour tous les hommes éclairés, les vrais organes de l'opinion publique sont les conseillers choisis par le roi sous le titre de père, et ceux envoyés devers lui par la nation sous le nom de députés. Mais dans une circonstance aussi grave, où l'une des chambres a cru devoir rejeter ce qu'une autre avait adopté, où même celle qui a voté négativement a offert un partage à peu près égal d'opinion, où enfin le rejet n'a été qu'une sorte de plus ample informé. Il nous paraît non seulement convenable, mais encore de toute justice, que le ministère accueille ce que les conseils d'arrondissement et de département croiront devoir exprimer au sujet de la loi des rentes. Ces conseils, composés de propriétaires, de négociants, de magistrats, enfin de ce que nos provinces ont de plus honorable, ne peuvent que jeter une grande lumière sur un objet qui touche aussi essentiellement à la fortune publique. C'est sous de tels auspices que la grande question débattue pendant la dernière session pourra se représenter, forte d'un assentiment presque unanime. Ou bien, si elle est proscrite dans le sein de ces assemblées, le gouvernement sera autorisé à mettre fin à une incertitude qui ne saurait se prolonger sans inconvénient. Fin des guillemets. Examinons cette pièce curieuse. Comparez d'abord les conseils généraux d'aujourd'hui aux bailliages, aux sénéchaussées d'autrefois, aux anciennes communes des villes et des campagnes, à tout ce qui formait le régime municipal de la France. C'est une étrange ignorance ou une bizarre aberration d'esprit. Quand on nous parle de cahier des conseils généraux, ne s'aperçoit-on pas de la confusion des mots, des idées et des doctrines qui se trouvent dans cette seule phrase, des cahiers? Il y a donc des mandataires. Sont-ce les membres des conseils généraux qui sont les mandataires du peuple, lequel pourtant ne les a pas nommés? Sont-ce les députés qui doivent être regardés comme les mandataires des conseils généraux, quoiqu'ils ne soient pas élus par ces conseils? Enfin, seraient-ce les ministres qui se trouveraient chargés des pleins pouvoirs de ces conseils? Et néanmoins, tous les jours, à la tribune, le ministère s'élève contre le système des mandataires et soutient qu'il n'y a point de représentants. Quel tour de Babel! Je ne parle pas des députés dont on ne fait plus que des conseillers de la couronne. Singuliers conseillers qui peuvent voter ou refuser l'impôt, mettre les ministres en accusation, etc. On voit bien où tout cela tend et où l'on en veut venir. Mais, sans trop nous arrêter, tâchons de trouver ce qui sort des ténèbres de l'article. Ce qui en sort, c'est la loi sur la réduction des rentes. Tout ce galimatias est pour nous dire qu'on n'a point abandonné l'ancien projet, que les 130 boules noires de la Chambre des députés, que la majorité de 23 voix contre la loi dans la Chambre des pairs, que les nombreux écrits publiés contre cette loi, que l'opinion presque générale des hommes instruits dans la matière n'ont pu ébranler l'obstination d'un ministre, qu'on se tienne pour averti qu'un seul homme en France a le privilège d'avoir toujours raison. Et comment un esprit si sûr de son fait semble-t-il avoir besoin de se faire appuyer? On nous parle des vœux que les conseils généraux pourront émettre. Mais lorsque les chambres ont rejeté, ou qu'une des chambres a refusé l'adoption d'une loi, à quel titre les conseils généraux interviendraient-ils? Aurait-on le dessein de les faire sortir du cercle de leurs attributions? Voudrait-on créer dans l'État un nouveau pouvoir politique? Aurait-on déjà quelques inquiétudes sur la disposition de la chambre élective? Et pour la rendre favorable à la loi renouvelée, le ministère viendrait-il présenter cette loi non plus comme son ouvrage, mais comme le vœu des départements. La sagesse des conseils généraux nous rassure, mais l'imprudence des hommes qui pourraient agir sur eux nous effraie. On a souvent fait entendre, dans les discussions de la loi, que si Paris repoussait le projet, les départements le désiraient, bien qu'on ait 100 fois prouvé que cette réduction de la rente, loin de faire refluer les capitaux dans les provinces, les attirerait à Paris. Est-ce l'œuvre d'un bon Français de chercher à rappeler dans des articles censurés la prétendue différence d'intérêt que l'on suppose faussement devoir exister entre Paris et le reste de la France? Venons au dernier paragraphe de l'article. Guillemets. Ces conseils, entre parenthèses, les conseils généraux, composés de propriétaires, de négociants, de magistrats, enfin de ce que nos provinces sont de plus honorables, ne peuvent que jeter une grande lumière sur un objet qui touche aussi essentiellement à la fortune publique. C'est sous de tels auspices que la grande question débattue pendant la dernière session pourra se présenter, forte d'un assentiment presque unanime. Ou bien, si elle est proscrite dans le sein de ces assemblées, le gouvernement sera autorisé à mettre fin à une incertitude qui ne saurait se prolonger sans inconvénient. Fin des guillemets. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut-il dire que si les conseils généraux sont d'avis du projet de loi, on le présentera de nouveau aux chambres, sans égard au changement d'opinion qui pourrait être survenu dans la chambre élective, sans considération pour le vote négatif de la chambre héréditaire. Mais les chambres, tout en respectant l'opinion des conseils généraux, ont une volonté. Elles écoutent leur conscience, elles consultent leur lumière, et ne règlent point le vote d'après des délibérations étrangères à leur séance. On nous fait entrevoir que les conseils généraux pourraient bien être unanimes dans leur opinion. Aurait-on fait menacer de destitution les membres de ces conseils qui occupent des places dans le gouvernement s'ils n'opinaient pas pour la loi des rentes? Monsieur le ministre de l'Intérieur nous a fait connaître ses principes sur la liberté des votes. Et comme les membres des conseils généraux sont révocables, il ne peut manquer d'avoir action sur des corps qu'il peut faire composer, décomposer et recomposer selon l'inspiration de son patriotisme. Mais si les conseils généraux sont d'un avis et les chambres d'un autre, comment arrivera-t-il, selon la phrase ministérielle, que le gouvernement sera autorisé à mettre fin à une incertitude qui ne saurait se prolonger sans inconvénient? Qu'entend-on par là? Et de quelle manière mettra-t-on fin à cette incertitude? Comment y sera-t-on encore autorisé si la grande question débattue pendant la dernière session est proscrite dans le sein de ces assemblées, c'est-à-dire dans le sein des conseils généraux, en supposant que l'on parle français? Ou ces phrases sont de pur non-sens, ou elles renferment une menace? Quand on considère tout ce que l'on a déjà entrepris contre nos libertés, on est trop disposé à penser que le ministère tenterait les choses les plus étranges, plutôt que d'abandonner son système. Un pareil article n'a pu être publié que sous le régime de la censure. Il n'a d'importance que parce que les journaux sont censurés. Autrement, la liberté de la presse périodique en aurait fait bonne justice. Puisque ma voix est encore entendue, malgré ce qu'on fait pour l'étouffer, sentinelle vigilante, je ne cesserai d'avertir du danger. Je suis loin d'être tranquille sur nos institutions. Non que je croie que les mains qui les menacent soient capables de les renverser, mais elles peuvent faire beaucoup de mal au trône et à la patrie, parce que le mal est une chose facile, à l'usage des intelligences communes. Le bien seul qui vient de Dieu a besoin des talents qui viennent du ciel pour être mis en œuvre. Paris, le 26 août 1824. De la censure que l'on vient d'établir. Dans la séance de la Chambre des Pairs du 13 mars 1823, je disais, en répondant à un orateur, « Un noble baron a présenté pour résultat de l'expédition d'Espagne la France envahie, toutes nos libertés détruites. Quant à l'invasion de la France et à la perte de nos libertés publiques, une chose servira du moins à me consoler. C'est qu'elles n'auront jamais lieu, tandis que moi et mes collègues serons ministres. Le noble baron, qui professe avec talent des sentiments généreux, me pardonnera cette assertion. Elle sort de la conscience d'un Français. » Ces paroles et l'établissement de la censure expliquent assez les raisons pour lesquels j'ai cessé d'être ministre, et les causes du traitement que j'ai éprouvé de mes collègues. Je les avais associés à mes sentiments. Il les renie aujourd'hui. Il a donc fallu qu'ils se séparassent de moi, quand ils ont médité de suspendre la plus importante de nos libertés. Laissons ma personne, parlons de la France. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit 100 fois à la tribune dans mes discours, ce que j'ai imprimé 100 fois dans mes ouvrages. Point de gouvernement représentatif sans la liberté de la presse. Avec la censure des journaux, la monarchie constitutionnelle devient ou beaucoup plus faible ou beaucoup plus violente que la monarchie absolue. C'est une languissante machine ou une machine désordonnée qui s'arrête par l'embrouillement des roues ou se brise par l'énergie de son mouvement. Je ne dis rien de ce commerce de mensonges qui s'établit au profit de quelques hommes dans les feuilles sans liberté et des diverses espèces de turpitude, suite inévitable de la censure. Pourquoi m'étendrai-je sur tout cela? Il s'agit bien de principes. On n'en est pas à ces niaiseries. On reconnaît sans doute qu'on a dépensé en vain des sommes considérables pour s'emparer de l'opinion des journaux. Il faut donc achever par la violence ce qu'on avait commencé par la corruption. On prend l'entêtement pour du caractère, l'irritation de l'amour-propre pour de la grandeur d'esprit. Sans songer que l'homme le plus débile peut, dans un accès de fièvre, mettre le feu à sa maison. Cet état de démence est-il une preuve de force? L'article 4 de la loi du 17 mars 1822 est ainsi conçu. Si, dans l'intervalle des sessions des chambres, des circonstances graves rendaient momentanément insuffisantes les mesures de garantie et de répression établies, les lois du 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 pourront être remises immédiatement en vigueur, en vertu d'une ordonnance du roi, délibérée en conseil et contresignée par 3 ministres. Je me demande si le cas prévu par la loi est arrivé. Des armées étrangères sont-elles à nos portes? Quelque complot dans l'intérieur a-t-il éclaté? La fortune publique est-elle ébranlée? Le ciel a-t-il déchaîné quelques-uns de ses fléaux sur la France? Le trône est-il menacé? Un de nos princes chéris est-il tombé sous le fer d'un nouveau Louvel? Non, heureusement non. Qu'est-il donc advenu? Que le ministère a fait des fautes, qu'il a perdu la majorité dans la Chambre des Pairs, qu'il s'est vu mettre en scène devant les tribunaux, pour avoir été mêlé à de honteuses négociations dont le but était d'acheter des opinions, qu'il a gâté la plupart des résultats de l'expédition d'Espagne, qu'il s'est séparé des royalistes. En un mot, qu'il paraît peu capable et qu'on le lui dit. Voilà les circonstances graves qui l'obligent à nous ravir la liberté fondamentale des institutions que nous devons à la sagesse du roi. si les circonstances étaient graves, il les aurait faites. C'est donc contre lui-même qu'il aurait établi la censure. L'expédition d'Espagne a été commencée, poursuivie, achevée en présence de la liberté de la presse. Une fausse nouvelle pouvait compromettre l'existence de Mgr le duc d'Angoulême et le salut de son armée. Elle pouvait occasionner la chute des fonds publics, exciter des troubles dans quelques départements, faire un mouvement aux puissances de l'Europe. Ces circonstances n'étaient pas assez graves pour motiver la suppression de la liberté de la presse périodique. Mais on ose dire la vérité à des ministres. Le français, né moqueur, se permet quelquefois de rire de ses ministres. Vite, la censure, ou la France est perdue. Quelle pitié! Il ne manquait au couronnement de l'œuvre que la raison alléguée pour l'établissement de la censure. On aurait pu avoir recours au lieu commun contre la liberté de la presse, parler de ses excès, de ses dangers, en affectant de la confondre avec la licence. On aurait pu dire que les lois actuelles de répression ne suffisent pas, bien qu'elles soient extrêmement dures, bien qu'elles aient obligé, par le fait, tous les journaux à se renfermer dans de justes limites. Ce n'est pas cela. On ne se plaint pas des journaux. On se plaint des tribunaux. La censure est nécessaire parce que de vrais, de dignes magistrats ont défendu la liberté de la presse, parce qu'ils ont rendu un arrêt dans l'intégrité de leur conscience et l'indépendance de leur caractère, parce qu'ils ont admis, pour les journaux, une existence de droit, indépendante de leur existence de fait. Et le moyen du droit paraît peu pertinent sous la monarchie légitime, après le fait de la Révolution, après le fait des 100 jours. Un ministre de la justice s'expose à blâmer par sa signature la sentence d'un tribunal. Il se prononce indirectement contre la chose jugée. Quel exemple donné au peuple ! 3 ministres osent mettre, pour ainsi dire, en accusation devant l'opinion publique les 2 premières cours du royaume, la cour de cassation, la cour royale et le tribunal de première instance. Car ces 3 tribunaux ont prononcé tous 3 dans la même cause. On attaque ainsi le monde judiciaire tout entier, depuis le sommet jusqu'à la base. Même le ministère public à la cour de cassation a opiné dans le sens de l'arrêt de cette cour. Tous les ministres étaient-ils présents au Conseil lorsque cette dangereuse résolution a été prise? Si l'un d'eux était absent, comme on le dit, il doit bien se repentir d'avoir été privé de l'honneur de se retirer. Les cours de justice, direz-vous, se sont trompées. Qui vous le prouve? Êtes-vous plus sage, plus éclairé qu'elle? Y a-t-il eu à peu près partage égal des voix entre les magistrats dans ces cours? Je n'en sais rien. On assure toutefois que la cour de cassation, dont le savoir est si connu, a prononcé à la presque unanimité dans l'affaire de l'Aristarque. Mais la résurrection de ce journal allait faire renaître plusieurs autres journaux. Pourquoi pas, s'ils ont réellement le droit de reparaître? Pourquoi la loi, pourquoi la justice ne serait-elle pas égale pour tous? Les faits ne sont pas même exacts. Il est douteux qu'il y ait d'autres journaux dans le cas précis de l'Aristarque. N'existe-t-il pas d'ailleurs une loi redoutable qui a suffi pour réprimer les excès de la presse? Les tribunaux, dont on blâme la jurisprudence, n'ont-ils pas souvent porté des sentences de condamnation contre des journalistes? Si l'on additionnait les sommes exigées pour les amendes, les jours, les mois et les années fixées pour les emprisonnements, on trouverait un total de peines qui satisferait les esprits les plus sévères. La rigueur que les magistrats ont déployée dans leur premier jugement prouvent que la douceur de leurs derniers arrêts est l'œuvre de la plus impartiale justice. Et pouvaient-ils, par exemple, sans se déshonorer, ces magistrats, ne pas juger comme ils ont jugé dans l'affaire de la quotidienne? Pourquoi le ministère ne s'est-il pas opposé à ce que cette cause, où il jouait un rôle, fut portée devant les cours de justice? Inconcevable imprévoyance, car on ne doit pas supposer qu'on se fit illusion sur des choses honteuses ou sur la conscience des juges. On dit que la jurisprudence des cours fournit un moyen d'éluder la suspension, la suppression des journaux. Ainsi, ce n'était pas la répression des délits qu'on cherchait, c'était la suspension, la suppression des journaux, c'est-à-dire la suppression de la liberté de la presse périodique. Votre secret vous échappe. Voilà ce que vous voyez dans la loi. Voilà comme vous comprenez le gouvernement constitutionnel. Nous savions déjà ce que vous en pensiez. Nous avions lu votre brochure. La justice est le pain du peuple. Il en est affamé, surtout en France. Les corps politiques avaient depuis longtemps disparu dans ce pays. Ils avaient été remplacés par les corps judiciaires, leurs contemporains et presque leurs devanciers. Nos cours souveraines se rattachaient par les liens de la civilisation, par les besoins de la société, par la tradition de la sagesse des âges, par l'étude des codes de l'Antiquité. Se rattachaient, dis-je, au berceau du monde. La nation, vivement frappée des vertus de nos magistrats, s'était accoutumée à les aimer comme l'ordre, à les respecter comme la loi vivante. Les Harlais, les Lamoignons, les Mollets, les Séguiers dominent encore nos souvenirs. Nous les voyons toujours protecteurs comme le trône, incorruptibles comme la religion, sévères comme la liberté, probes comme l'honneur, dont ils étaient les appuis, les défenseurs et les organes. Et ce sont les successeurs de ces magistrats immortels que des hommes d'un jour osent attaquer. Des hommes soumis à toutes les chances de la fortune, des hommes qui rentreront demain dans leur néant si la faveur royale se retire. Ces hommes viennent gourmander des juges inamovibles qui parcourent honorablement une carrière fermée à toute ambition et consacrée aux plus pénibles travaux. Vous vous tenez pour offensés lorsque les chambres n'accueillent pas vos lois. Vous vous irritez quand les tribunaux jugent d'après leur lumière. Vous ne voulez donc rien dans l'État que votre volonté, que vous seul, que vos personnes. Mais si vous parveniez à ébranler chez les peuples la confiance qu'ils doivent avoir dans leurs juges, si vous déclariez, comme vous le faites réellement, que la jurisprudence des tribunaux est dangereuse sur un point, n'en résulte-t-il pas qu'elle peut l'être sur d'autres? Dites-nous alors, que deviendrait la société où vous auriez semé de pareils soupçons, vous, autorité, vous, pouvoir ministériel? Tous les jours, ces tribunaux prononcent sur la fortune et la vie des citoyens. Vous m'exposez donc à soupçonner tous les jours qu'un bien a peut-être été injustement ravi, qu'un innocent a peut-être péri sur l'échafaud. Imprudent qui ne voyait pas le désordre que vous jetez dans les esprits par de pareils actes. Et quelle est votre valeur morale pour condamner d'un trait de plume des cours entières, pour substituer vos ignorances ministérielles à la science des magistrats qui tiennent de l'auteur de toute justice la balance pour peser, le glaive pour punir? Pourquoi tant d'humeur contre l'Aristarque? Serait-ce qu'il a pour propriétaire trois députés de l'opposition, messieurs de la Bourdonnais, Sanlot Bagneau et le moine Desmarres? Le ministère est plus riche que cela. N'a-t-il pas pour lui tous ces journaux achetés sur la place, plus ou moins chers, selon la hausse ou la baisse du prix des consciences. Mais est-il permis à des ministres de n'avoir pas étudié les lois qu'ils sont chargés de faire exécuter? S'ils s'étaient un peu plus occupés de celles qui doivent réprimer les délits de la presse, ils auraient vu que la censure n'y était placée qu'éventuellement pour un cas si rare, pour un cas si grave, que dans tous les cas ordinaires, l'exercice de cette censure rendait impraticables quelques articles de ces mêmes lois. Tant il avait été loin de la pensée du législateur de faire de cette censure l'ordre commun, le droit coutumier. Au terme de l'article 11 de la loi du 25 mars 1822, j'ai le droit de répondre à tout ce qu'on peut me dire dans un journal. Mais si le censeur a permis l'attaque et s'il ne permet pas la défense, s'il trouve dans ma réponse quelque chose qui mérite d'être marqué du signe de sa proscription, de son encre rouge, voilà donc un article de la loi qui ne sera pas exécuté. Que ferai-je? Poursuivrai-je l'éditeur responsable? L'éditeur me renverra au censeur, et le censeur au gouvernement. Je ne puis mettre un ministre en cause que par un arrêté du Conseil d'État. Il résulte de tout cela que je suis calomnié sans pouvoir confondre la calomnie, que la loi est violée, que je ne puis avoir recours aux tribunaux, lesquels eux-mêmes se trouvent paralysés par l'exercice d'un pouvoir extra-légal en matière judiciaire. Le fait de la censure est par lui-même destructif de tout gouvernement constitutionnel. Mais outre le fond, il y a la forme. Et la forme est quelque chose entre gens bien élevés, quoi qu'on sache que nous n'y tenons pas beaucoup. Comme on a été vite, on n'avait pas eu le temps de nommer une commission. Et comme une vérité pouvait échapper dans 24 heures, au grand péril de la monarchie, il a fallu envoyer provisoirement à la police tous les journaux pris en flagrant délit de liberté. Jugez quel malheur si on les avait laissés écrire un seul mot contre la mesure de la censure. Ils ont donc été mystérieusement censurés à l'hôtel de la direction de la police. Une main invisible, peut-être celle d'un valet de chambre, caton inconnu, a mutilé le soir la pensée du maître qu'il avait servi le matin, et cela pour la plus grande sûreté des ministres. On ignorera à jamais comment était provisoirement composé ce saint office d'espion, chargé de décider de l'orthodoxie des doctrines constitutionnelles. Mais encore ici les choses sont-elles légales? L'article 1er du Code civil porte « Les lois seront exécutées dans chaque partie du royaume du moment où la promulgation pourra en être connue. La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale un jour après celui de la promulgation. » Fin des guillemets. Or, les journaux ont reçu l'ordre de se soumettre à la censure 12 heures seulement après la publication de l'ordonnance dans le Moniteur. Et ce censeur qui a signé les premières censures était-il légalement connu lorsqu'il a exercé ses fonctions? L'ordonnance qui le nommait avait-elle été communiquée aux journalistes? Tout cela est très attaquable devant les tribunaux. Et il n'est pas permis, lorsqu'on est ministre, et surtout lorsqu'on a appartenu à des corps judiciaires, de se montrer aussi despote, aussi ignorant. Une commission est maintenant ordonnée, sous la présidence du directeur de la police, à l'honneur des Lumières et des Lettres. On avait été jusqu'à dire que des hommes choisis dans les deux chambres législatives composeraient le conseil de censure. Nous eussions plaint la faiblesse de ces hommes honorables. Les pairs et les députés sont faits pour être les gardiens et non les geôliers des libertés publiques. La censure, depuis la Restauration, n'a sauvé personne. tous les anciens ministres qui ont voulu l'établir ont péri. Et pourtant ils avaient une sorte d'excuse. Ils étaient plus près de l'événement des 100 jours. Il y avait des troubles et des conspirations dans l'État. Le duc de Berry avait succombé. De plus, ces ministres avaient une certaine force. Ils appartenaient à un parti. Ils ne s'étaient pas mis en guerre avec toute la société. Ils ne s'étaient pas élevés contre l'autorité des tribunaux. On connaissait moins le gouvernement représentatif, et par cette raison, il était plus facile de s'en écarter. Le ministère actuel ne peut argumenter ni d'une grande catastrophe, ni de l'ignorance des principes de la charte, mis aujourd'hui à la portée de tous. Il est sans puissance, car il lui a plu de s'isoler de toutes les opinions. Il a renié ses propres doctrines, et aujourd'hui qu'il établit la censure, pourrait-il relire sans rougir les discours qu'il prononçait contre la même censure à la tribune ? Sorti des rangs royalistes, il a cessé d'être royaliste. Il n'a pas mieux traité l'antique honneur que la liberté nouvelle. Il s'est placé entre deux Frances, dans une troisième France, composée des déserteurs des deux autres, et qui ne durera pas plus que lui. Pour vivre, il sera forcé de pousser ses systèmes à leurs dernières conséquences. C'est une vérité triviale qu'une erreur en entraîne une autre. Une vérité moins connue, c'est que le ministère se trompe sur deux qualités de force. Il prend la force physique pour la force morale. Or, dans la société, la première détruit, la seconde édifie. Voyez l'enchaînement des choses. On veut acheter des journaux. On n'y réussit pas complètement. S'arrête-t-on ? Ce qui valait mieux. Non. Il faut aller devant les tribunaux, où l'on est condamné. On apporte une loi relative à la fortune publique. Elle est rejetée. S'arrête-t-on ? Ce qui était incontestablement plus sage. Avec de la modération, tout pouvait encore se réparer. L'irritation de la vanité l'emporte. On cherche des victimes, on frappe au hasard, sans s'inquiéter des résultats, sans prévoir l'effet de cette violence sur l'opinion. L'opinion se prononce. S'arrête-t-on ? Non, il faut une nouvelle violence, il faut la censure. Que le ministère trouve maintenant d'autres résistances, comme il en trouvera indubitablement, il sera contraint de devenir persécuteur. Quand il aura destitué ses adversaires, comblé de faveur ses créatures, il n'aura rien fait. Il faudra qu'il trouve un moyen d'empêcher les écrits non périodiques de paraître, de modifier la jurisprudence des tribunaux, puisqu'il s'en plaint, de ces tribunaux si puissants aujourd'hui par l'injure même qu'on leur a faite, si populaires en devenant les défenseurs de nos libertés. Qu'imaginera le ministère pour ces cours de justice, dans le cas où elles continuent, comme elles le feront, à maintenir leur doctrine indépendante? Ces cours sont établis par des lois. Sans doute on ne songe pas à violer ces lois, et le temps des jugements par commission est passé. Et à l'égard des chambres, quel parti prendra-t-on? Comment viendrait-on leur déclarer qu'on a établi la censure, n'ayant d'autres raisons à leur donner que celles dont on a eu l'inconcevable naïveté de nous faire part? Oserait-on leur dire « Nous avons supprimé la liberté de la presse périodique parce que les magistrats ont rendu un arrêt qu'ils avaient le droit de rendre » On fera des pairs, soit, mais ces pairs seront-ils soumis aux caprices des ministres? Cette première magistrature n'est-elle pas aussi indépendante que l'autre? Ces nouveaux pairs viendraient-ils prendre leur siège uniquement pour approuver la censure ou voter la loi des rentes renouvelée? Je ne vous dis pas que ces créations multipliées dans un intérêt personnel tueraient à la longue l'institution de la pairie. Mais songez au moins à votre chute que précipitent tant de mesures funestes. Et la Chambre des députés, qu'en fera-t-on ? Cette chambre excellente n'a besoin que d'un peu d'expérience. Elle peut revenir formidable pour les ministres. En demandera-t-on la dissolution? Voyez où cela mène, et frémissez, car je veux bien supposer que vous n'avez pas vu tout cela, que vous aimez encore votre patrie. La censure, considérée dans ses rapports avec l'état de notre société et de nos institutions, ne peut convenir à personne. Tout au plus charmera-t-elle l'antichambre et les valets, qui daigneront nous transmettre dans leurs journaux les ordres de leurs maîtres. Eux seuls jouiront de la liberté, parce qu'on est sûr de leur servitude. Un journal du soir a déjà des privilèges. On lui accorde la faveur qu'on refuse à d'autres de partir par la poste du jour où il paraît. Si l'on veut prendre quelques nouvelles dans ce journal, on ne le peut pas sans les avoir envoyées à la censure, quoiqu'il faille bien supposer que ces nouvelles aient déjà passé sous les yeux du censeur. Mais l'on permet à l'un ce que l'on ne permet pas à l'autre. Ce qui est légal dans l'étoile deviendrait illégal dans les débats ou la quotidienne, dans le constitutionnel ou le courrier. L'impudence de ces petites tyrannies s'explique pourtant. La puissance n'a rien de blessant quand elle marche avec le génie. Elle en est, pour ainsi dire, une qualité naturelle. Mais quand la médiocrité arrive aux premières places, le pouvoir qui l'accompagne a toute l'insolence d'un parvenu. La liberté que l'on veut comprimer échappera aux mains débiles qui essaieront de la retenir. Elle leur échappe déjà. Voilà les blancs revenus dans les journaux. En note. Je me suis enquis des articles retranchés dans le journal des débats du mardi 17 août. Ce sont premièrement un second article de la revue de la session terminant les travaux de la Chambre des députés, deuxièmement l'annonce de la présente brochure, troisièmement quelques lignes sur Mgr le duc d'Orléans parlant de la sensibilité de ce prince lors de la distribution des accessites obtenus par M. le duc de Chartres. Voilà les premiers exploits de la censure. Fin de la note. Voilà les blancs revenus dans les journaux. Vous verrez qu'il faudra sévir contre les blancs. Le délit des pages blanches serait singulier à porter devant les tribunaux. Les vexations aux messageries et à la poste ne réussiront pas davantage. Quand l'opinion a pris son parti, rien ne l'arrête. La capitale, les provinces vont être inondées de brochures. Le silence même deviendra une attaque, et le ministère sera accusé par la chose qu'on ne lui dira pas. Eh, grand Dieu, en étions-nous là, à l'ouverture de la session? Lorsque Buonaparte pouvait faire fusiller en 24 heures un écrivain, on conçoit qu'il y avait répression. La terreur aussi était répressive, mais le ministère, qui le craint? Ceux qui bravaient si fièrement l'opinion, pourquoi fuient-ils devant elle? Pourquoi cette censure, si ce n'est la peur de cette opinion qu'ils affectent de mépriser? Je ne sais si l'on est frappé comme moi, mais il me semble que tout ce que je vois est inexplicable, que cela tient à une espèce de folie. Je conçois des actes, tout bizarres qu'ils puissent être, lorsqu'ils tendent au même but, lorsqu'ils doivent amener un résultat dans l'intérêt de ceux qui les font. Mais il m'est impossible de concevoir des hommes qui veulent se sauver et qui font évidemment ce qui les perdra. À quoi bon, je le demande, ces inutiles violences dont nous sommes les témoins depuis quelques mois? Cette agitation au milieu du repos, cette soif de la dictature ministérielle quand personne ne dispute le pouvoir? Pourquoi corrompre les journaux et ensuite les enchaîner lorsque la victoire d'un héritier du trône et la prospérité de la France avaient détruit toutes les oppositions révolutionnaires? Ce que le roi avait annoncé en ouvrant la session de 1823, la Providence l'avait permis et l'armée l'avait fait. Qui ne sentait le sol de la patrie raffermi sous ses pas? qui ne jouissait de voir la France remonter à son rang parmi les puissances de l'Europe. Quelque chose d'inconnu vient nous enlever soudain nos plus douces espérances. Nous rétrogradons tout à coup de 8 années. Nous nous replaçons au commencement de la Restauration. Nous nous armons de nouveau contre les libertés publiques. Nous revenons à la censure en aggravant le mal par un acte sans précédent à l'égard des tribunaux. Nous imitons une conduite que nous avons stigmatisée. Nous faisons des circulaires pour des élections. Il nous faudrait des pairs pour briser une majorité. Nous repoussons les royalistes, et cependant nous nous disons royalistes. Tout allait au pouvoir ministériel, tout s'en retire. Il reste isolé, en butte à 1000 ennemis, supporté seulement par une opinion qu'il dicte, par des journaux qu'il paie et des flatteurs qu'il méprise. Quelquefois, on serait tenté de croire, pour s'expliquer des choses inexplicables, ce que disent des esprits chagrins. Savoir que des sociétés mystérieuses poussent à la destruction de l'ordre établi. Et que mettrait-on à sa place? L'arbitraire ministériel, le joug de quelques commis? Et c'est avec cela qu'on prétendrait mener la France, contrarier le mouvement de la société et du siècle? Non, cela ne serait pas possible. Mais en repoussant ces craintes, il reste toujours celles qu'inspirent les fautes dont nous sommes les témoins et les victimes. En exagérant tout, en forçant tout, en abusant de tout, en gâtant d'avance les institutions, en compromettant les choses les plus sacrées, on détruit pour l'avenir tout moyen de gouvernement. On fatigue les caractères les plus forts, on dégoûte les honnêtes gens. Et entre un despotisme impossible et une liberté impraticable, on se retranche dans cette indifférence politique qui amène la mort de la société, comme l'indifférence religieuse conduit au néant. Qui produit tant de mal? Quel génie funeste mais puissant a maîtrisé la fortune de la patrie? Ce n'est point un génie, rien de plus triste que ce qui nous arrive. C'est le triomphe d'un je ne sais quoi indéfinissable, le succès des petits savoir-faire réunis. 2 hommes se collent au pouvoir, et pour y rester 2 jours de plus, ils jouent la longue destinée de la France contre leur avenir d'un moment. Voilà tout. Il faut sortir promptement de la route où l'on s'est jeté, si l'on ne veut arriver à un abîme. On peut disposer de soi, on peut se perdre si on le juge convenable. Mais on ne doit jamais compromettre son pays. Or, le ministère ébranle par son système la monarchie légitime. Peu importe ses intentions, elles ne répareront pas ses actes. Le remède est facile si la maladie est prise à temps. En la laissant aller, elle deviendra incurable. Je ne puis développer toute ma pensée dans ce petit écrit, rapide ouvrage de quelques heures, que je publie à la hâte pour l'intérêt de la circonstance. Il m'est dur, déjà avancé dans ma carrière, de rentrer dans des combats qui ont consumé ma vie. Mais, pair de France, mais investi d'une magistrature, je n'ai pu voir périr une liberté publique. Je n'ai pu voir attaquer les tribunaux sans élever la voix, sans prêter mon secours, tout faible qu'il puisse être, à nos institutions menacées. Que le trône de notre sage monarque reste inébranlable, que la France soit heureuse et libre. Et quant à ma destinée, comme il plaira à Dieu.